have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C. aux États-Unis. John Lyndon à la présentation, Georges Léonard Sagnois sur la production de cette émission qui est mise en onde par mon ami Souleymane Tarawale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlons de la gestion des catastrophes naturelles aux États-Unis. L'ouragan Harvey a fait 40 morts. D'après un dernier bilan de CNN, on parle de plus de 100 milliards de dollars de dégâts. Cette catastrophe naturelle a suscité une mobilisation générale dans le pays. L'administration Trump a demandé jeudi au Congrès de débloquer des fonds d'urgence. Le président américain, qui doit revenir au Texas samedi, a lui promis de faire un don personnel $1 million. Solidarité aussi de la part de la société américaine. Plusieurs artistes, tels que Beyoncé, Sandra Bullock ou encore Ariana Grande, contribuent aux levées de fonds pour venir en aide aux victimes, sans oublier les stars du football, les églises, les centres musulmans ou ont ouvert leurs portes pour accueillir les sinistrés. Alors, inondations, tremblements de terre, éboulements de terrain, comment se remettre d'une catastrophe naturelle? Quelle est la responsabilité de l'État, des simples citoyens et des communautés religieuses? C'est autour de ces questions que s'articule l'émission de ce soir. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous, vos commentaires et réactions sont les bienvenus sur Facebook et en direct au 001-202-205-2623. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur le site www.voaafrique.com. Et pour nous accompagner au cours des 25 prochaines minutes, nous aurons Virginie Bobda Conchou qui est à Houston. Virginie, bonsoir.
Bonsoir, mes chers compatriotes. Bonsoir, John, pour cette opportunité que tu vous me donnez pour exprimer, pour être la voix de ceux qui sont ici à Houston en ce moment par rapport au désastre que nous avons connu.
Voilà, bonjour. Donc vous restez avec nous, on va effectivement discuter de la situation là-bas sur le terrain, où nous avons également Tatiana Basimba. Tatiana, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous.
Merci. Voilà. Merci d'être là. Vous êtes également à Houston, il me semble. Et puis, depuis la Belgique, nous aurons notre ami, notre consultant, je veux dire, Henri Désiré Nzosi. Henri, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à toute l'équipe de VOA ainsi qu'à nos auditeurs.
Alors nous devrions également avoir Abdelaziz Moundé dans cette émission depuis Paris, mais on va commencer avec ceux qui sont déjà là. Henri, puisque vous n'êtes pas ici aux États-Unis, quelle est l'analyse, le commentaire général que vous pouvez faire sur ces catastrophes qui semblent venir d'un peu partout, des États-Unis, de l'Afrique et bien sûr de l'Asie, où on dénombre déjà de milliers de morts, on va dire.
Bah, écoutez, quand il y a un déchaînement des forces de la nature, c'est toujours très compliqué pour l'homme d'y faire face, d'autant plus que par essence, ces catastrophes interviennent de manière tout à fait inopinée et impromptue. Cela étant, on voit bien l'importance que revêt le fait qu'il faille trouver un consensus international sur la manière la plus efficace de lutter notamment contre le changement climatique. Et là, nous avons une manifestation extrêmement précise d'une menace sur laquelle il va falloir que tous les pays puissent s'engager davantage. Et je ne doute pas un seul instant que l'administration Trump pourra tirer les leçons, notamment de ce désengagement qui a été annoncé il y a de cela quelques mois de l'accord de Paris. Ça devrait peut-être faire réfléchir les Américains sur l'importance que peut revêtir un tel accord pour mutualiser les efforts pour lutter contre ce type de problème.
Voilà. On va discuter de tout cela et des causes, des conséquences et des solutions du changement climatique peut-être, mais beaucoup plus de ces catastrophes naturelles. Alors, nous allons à Houston pour partager l'expérience. On va commencer avec vous, Virginie Bobda. Vous êtes dans quelle région de Houston?
En fait, je suis dans l'ouest de Houston. Bien évidemment, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas une zone qui n'a pas été touchée en ce moment. Toute la ville de Houston est sur l'eau, le nord, le sud, l'ouest et l'est également. Donc, ce n'est pas une question de région, c'est vraiment toute la ville qui est sous l'eau, quoi.
Alors, on voit ces images à la télé et moi, quand je les vois, j'ai un peu peur. Je me dis, comment est la vie à Houston ces jours-ci? Comment vous faites? Vous allez au travail? Vous êtes à la maison? Vous êtes où?
Ben, en ce moment, je suis à la maison. Je suis enseignante de formation. Donc, depuis 10 jours, toutes les écoles sont fermées dans la ville. Et je ne pense pas qu'on va ouvrir avant au moins une semaine, parce que les nouvelles que nous avons de nos administrateurs, c'est que les écoles ouvrent le 11, donc dans une semaine environ. Et ça veut dire que les enfants restent à la maison, ils sont à la maison depuis, ils seront à la maison pendant au moins 2 semaines en fait.
Voilà. On va prendre également Tatiana Basimba. Vous êtes dans quelle région de Houston et comment ça se passe de votre côté?
Mais très précisément, je suis au staff ouest de Houston, et donc voilà, on a vécu des choses vraiment pas acceptables, vraiment difficiles, dirais-je. Et c'était vraiment dur pour nous dans le staff ouest. Tout Houston, dirais-je, c'était difficile, plein d'eau à gauche, droite, pas de travail, la ville était complètement morte. Ça a été vraiment très difficile pour nous. Et, voilà.
Est-ce que vous avez des dégâts matériels? Je ne veux pas parler
humain. Bien entendu, bien
humain.
Entendu. Bien, moi-même, personnellement, j'en ai vécu chez moi. Trop d'eau, dégâts matériels, tout à gauche, droite, des voisins. C'était pas facile. On n'a pas dormi déjà la nuit de vendredi à samedi. On n'a pas dormi, on était éveillés. Tout le monde était dehors pour voir, essayer un peu de sauver quelque chose, mais on ne pouvait rien faire parce qu'il y avait trop d'eau, et donc voilà.
Voilà. Vous restez avec nous, on va prendre un auditeur au téléphone, Théodoum Ousana. Bonsoir.
Bonsoir, VOA, et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, vous nous avez écrit sur Facebook, et là, vous abordez la question des responsabilités. Vous dites que, tout d'abord, les États ont une grande part de responsabilité, parce que c'est à ces États-là, aux autorités notamment, c'est eux qui sont garants, c'est les États qui sont garants de la sécurité des populations. Pourquoi?
Oui, bien évidemment, les catastrophes naturelles sont difficiles à maîtriser, mais néanmoins, on devrait quand même les prévenir. Parce qu'on ne peut pas rester à attendre d'abord que le malheur arrive avant de se mobiliser. Par exemple, on doit, comme je l'ai dit dans mon commentaire, on a imposé aux citoyens de respecter les normes, par exemple, de la construction, imposer les permis de construction et déguerpir les habitations qui sont dans des zones à risque. Et cela peut néanmoins réduire le risque. Sinon, je vois que c'est pas du tout. Les autorités doivent vraiment investir dans ce domaine afin qu'on ne perde pas à tout moment la vie humaine. Et aux citoyens, c'est difficile de travailler avec la population. Parfois, il y a des citoyens qui ne veulent pas respecter la loi. Mais les États, les autorités qui sont les garants de la sécurité et de la protection de la population doivent vraiment prendre leurs responsabilités afin de réduire le risque et de ne pas faire qu'à chaque moment, à chaque année, on voit ces cas arriver. Donc, on doit prévenir, on ne doit pas attendre d'abord que ça arrive avant de se mobiliser et de bloquer les bons. Je vois que c'est vraiment absurde, quoi.
Mais Théodoum Ousana, il s'agit bien là d'une catastrophe naturelle. Comment est-ce que, à votre avis, les États peuvent prévenir une pluie, par exemple?
Bon, parce que y a la technologie est vraiment avancée. Il y a des zones inondables, il y a des zones qu'on voit que souvent, chaque année, c'est de tels cas arrivent. Donc, on devrait prendre des dispositions pour au moins dégager des gens qui sont dans des zones dangereuses. C'est ce que j'ai dit dans mon commentaire. Et ça va vraiment aider à réduire le risque. Sinon, on voit que certaines zones ne sont pas l'autre habitables et on laisse des citoyens rester là. Et quand le malheur arrive d'abord, il y a le regret. Donc, c'est vraiment important de déguerpir ou de vraiment contrôler la construction ou imposer la permis de construction à ces gens qui sont dans des zones à risque.
Voilà, justement la question que vous soulevez, on devait l'évoquer un peu plus loin dans l'émission. Henri Désiré, l'urbanisation, il y a des gens qui construisent dans des zones qui sont effectivement des zones à haut risque, des zones urbaines où on sait d'avance que il peut y avoir un terrain qui n'est pas propice à l'habitation. Comment prévenir cela?
Alors, ce qui est compliqué, évidemment, c'est de pouvoir, au fond, prévenir, sensibiliser et attirer l'attention du public sur les risques qui sont liés justement à ce type de construction. Mais vous savez, lorsque le pouvoir, ou en tout cas lorsque l'État est faible, lorsqu'il est dans une situation de faiblesse récurrente et d'impuissance, il est extrêmement difficile de pouvoir anticiper sur ce type de problèmes qui pourraient survenir. Ce que l'on peut peut-être espérer, c'est qu'à l'avenir, un certain nombre de dispositions soient prises, tant au niveau local que régional, puisque c'est un problème qui touche non seulement les États, mais les sous-régions en Afrique, pour que lorsque ce type de problème survient, et là nous sortons évidemment des États-Unis, eh bien nous puissions être en capacité de faire face à ce type de menace. Je rappelle juste que ces 10 dernières années, le nombre de personnes ayant été exposées aux aléas naturels a triplé. Nous sommes aujourd'hui à 2 milliards de personnes qui ont été confrontées de manière directe ou indirecte à ce type de problème.
Ce qui est énorme. On va aller encore à Houston. Virginie Bobda, comment est-ce que vous avez accueilli la... Comment est-ce que les autorités sur place ont réagi face à cette catastrophe, on va le dire, naturelle au niveau de Houston? On sait que le président Trump est venu dans cette zone-là et qu'il devrait y être encore demain. Comment les secours se font?
En fait, j'ai été vraiment agréablement surprise et impressionnée par la réaction des autorités ici. J'avoue que quand on a la catastrophe en face de soi, on a tendance un peu à l'oublier. Quand on voit la mobilisation, je vous dis, nous tous, on vit tout ça à la télé, on voit comment les gens se mobilisent, comment les gens interviennent. Ça a été un travail de vraiment une organisation impressionnante pour que les gens aient de la conscience, parce que dans ce genre de situation, comme disait l'autre intervenant, on est tous stressés, on a peur, on ne sait pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'on va vivre demain, nos enfants, comment ça va se passer pour l'année scolaire par exemple. Et là, en face, on a donc des autorités qui donnent des meetings, qui informent le public à la limite heure après heure. Donc, on sait exactement l'évolution des choses. On avait des problèmes de réservoir. On suivait pas à pas l'évolution de l'eau, comment ça va se passer, les réactions qu'il faut avoir. Donc, j'estime qu'à mon avis, ils ont très bien réagi à cette catastrophe. Par exemple, ils ont pris des dispositions par rapport à Katrina il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Pour éviter les mêmes catastrophes ici à Houston, on passe d'une quarantaine de morts avec ce qu'on a connu dans d'autres régions du monde. Je pense qu'on serait à des milliers de morts en ce moment.
Voilà.
Et là, on parle encore de 40 morts. C'est pour dire que la réaction a été positive. Ils ont fait le travail qu'il fallait pour déjà calmer la population et pour mettre les gens en sécurité.
Voilà, il faut dire, pour être plus exact, que les derniers chiffres parlent de 47 morts et plus de 100 000 maisons qui sont touchées. Tatiana Bassimba, on l'a dit en début de cette émission, il y a une mobilisation, y compris de la part des célébrités, des artistes, des stars du football. Comment c'est accueilli là-bas et comment vous voyez cette mobilisation-là? Tatiana?
Oui.
Moi,
je dis, c'est très bien de leur parler, de nous soutenir, parce que en nous-mêmes, on sait pas vraiment facile. On est stressé en même moment, on sait qu'il faut faire. S'ils peuvent venir, quand les médias sont en train d'annoncer Alors, lorsque voilà, on aura de l'aide, c'est une très bonne chose pour nous. Et donc, on n'attend plus que eux pour venir nous soutenir. Donc, voilà.
Voilà. Henri Désiré, Virginie Bobda le disait tout à l'heure, si ça avait été dans d'autres régions du monde, peut-être que les chiffres seraient plus élevés. Et on sait que l'Afrique a été victime aussi de catastrophes naturelles ces derniers temps, la Sierra Leone notamment. Comment est-ce qu'en Afrique, on peut gérer ce genre de situation ou se préparer à la gestion de telles situations?
Alors oui, il y a eu également en République démocratique du Congo dans
les pays
qui a fait plus de...
Et même hier ou aujourd'hui au Nigeria.
Oui. Voilà, tout à fait, au Nigeria, effectivement. Mmh. Écoutez, je pense que la manière la plus efficace de faire face à ce problème, c'est qu'il y ait d'abord au niveau national des politiques qui puissent mettre en œuvre un certain nombre, je dirais, de mécanismes, je pense notamment au système d'alerte précoce, qui permettent au fond aux autorités de pouvoir, non pas anticiper, mais en tout cas préparer ce que pourrait être une situation d'urgence. À côté de ça, vous avez évidemment d'autres outils sur lesquels les pays africains peuvent s'appuyer. Je pense notamment au programme de prévention des risques liés aux catastrophes naturelles. C'est une initiative qui a été lancée en octobre 2011 avec notamment les pays ACP et l'Union européenne, et qui repose au fond sur quatre actions prioritaires. Hein. Je vais peut-être les énumérer.
Oui,
l'intégration de la prévention des risques et des catastrophes, l'identification et l'évaluation des risques, les systèmes d'alerte précoce et la communication relative à la prévention des risques des catastrophes, et enfin le transfert et l'intégration de la prévention des risques des catastrophes dans des efforts de relèvement post-catastrophique. Donc là, nous sommes vraiment dans la résilience et non plus dans une sorte de situation où les gouvernements sont tétanisés, incapables d'agir, et là, pour le coup, ils ont la possibilité de pouvoir obtenir un meilleur degré de préparation de la population, surtout dans les zones qui sont exposées à ce type de catastrophe, et surtout obtenir finalement sur le court terme la réduction du coût des interventions en cas de catastrophe naturelle. C'est un vaste programme, mais il faut s'y résoudre.
Alors, mais je vais vous relancer, Henri, il y a aussi un niveau de sensibilisation de la population. Est-ce que vous pensez que chez nous, les populations sont, quand je dis chez nous ou en Afrique, est-ce que les populations sont prêtes à ce genre de situation? Parce que très souvent, c'est la panique qui fait mourir les gens.
C'est exact. On n'est pas préparé par définition à ce type de situation, parce que s'appuyer uniquement sur une capacité de réponse en urgence n'est plus vraiment un mode opératoire possible. Il faut simplement, je pense, avoir une approche dite transversale et multisectorielle qui permet aux autorités la mise en application de mesures de réponse qui sont partagées le plus largement possible au sein de la population sur les risques qui sont liés justement à ce type de désastre.
Voilà. Georges Léonard Sagno nous a rejoint. On parlait de la mobilisation des stars tout à l'heure, et notamment celle du football. Comment vous appréciez cela?
Oui, merci John, avant de parler des stars, je voudrais un peu ajouter ce que vient de dire notre consultant, M. Henri Désiré, par rapport au gouvernement en Afrique et les inondations ou les catastrophes naturelles. Personne ne peut prévenir, mais il faudrait que les gouvernements africains soient un peu proactifs. Nous avons vu Houston, nous avons vu le Texas, c'est navrant, c'est écœurant. Mais il faut dire que le gouvernement américain est à saluer, les autorités du Texas sont à saluer parce que les secours sont vite organisés, les gens sont sauvés. Franchement, ce qui se passe à Houston, quand on regarde les images, on ne penserait pas qu'une seule personne serait sortie vivante. Donc il faudrait que les gouvernements africains soient un peu proactifs. Cela dit, hein, les secours s'organisent pour vraiment venir en aide à Houston. Et il faut aussi dire que les médias sont en train de contribuer de façon vraiment grandiose. On a vu nos confrères de CNN qui ont même donné leur téléphone à des gens qui étaient en détresse pour essayer de à des sinistrés pour essayer de joindre leurs parents, leurs proches. On a vu également des journalistes qui ont prêté leur bateau, leur pirogue à des sinistrés. C'est ça aussi, hein, l'autre face cachée des médias. Les médias ne sont pas seulement là pour donner des nouvelles, mais les médias peuvent intervenir de façon, peuvent faire l'humanitaire. Cela dit, il faut dire que les stars aussi, hein, de la NBA, vous savez que Houston regorge de stars de la NBA, de NFL, bref, des stars du football américain, ils sont mobilisés. ils sont mobilisés et donc depuis hier, depuis que, alors, disons, cet ouragan est passé, vous comprenez, les gens se sont mobilisés. Il y a une grande star appelée donc JJ Watt qui a lancé sur les réseaux Texas Forever, hashtag Texas Forever, pour que les gens aillent là pour contribuer. Alors, youcare.com, c'est son website, le lien qu'il a créé. Donc, les contributions sont en train de rentrer. Et Alexander, qui est donc Leslie Alexander, qui est la patronne de Houston Rockets, a promis de donner 10 millions de dollars. Et d'autres stars sont actifs, très actifs sur les réseaux sociaux. Et John, il faut aussi préciser que depuis un certain temps, les grandes firmes comme Coca-Cola et voilà, Pepsi ont donc, en addition à ce que ces compagnies-là fabriquent, ils ont commencé à fabriquer de l'eau minérale également pour les Texans. Donc, c'est vous dire que les secours sont mobilisés et les gens compatissent.
Alors, Virginie Babda, on va évoquer un peu un côté depuis, vous flirtez un peu avec la santé aussi de temps en temps. Est-ce qu'on a des cas, est-ce qu'on peut craindre des cas d'épidémie, de maladie en ce moment, Virginie?
Un problème d'eau dans la région de Beaumont, par exemple, parce que il a fallu fermer l'eau parce qu'elle était infestée. Et c'est justement pour de ce qu'on parlait. Quand il y a un problème, ils sont réactifs, ils n'attendent pas que le désastre arrive. Ils ont fermé l'eau pour que les gens ne puissent plus consommer cette eau-là, qui est donc source de maladies et d'épidémies. Cela étant, vous savez, les gens, l'eau a infiltré les maisons sont inondées. Et ça vient avec tout ce que l'eau comporte à ce moment-là. Tous les égouts remontent et ça rentre dans les maisons. Donc, il faut faire très attention. En ce moment, moi, je consomme toujours de l'eau chez moi. Bon, je n'en bois pas, j'en ai jamais bu. Mais j'utilise pour laver faire la vaisselle, tout ce qu'on fait, on utilise pour de l'eau. Mais il y a des gens qui devraient vraiment faire attention à leur maison quand ils vont revenir parce que tout est rentré dans la maison. Il faut désinfecter les maisons. Ils demandent même de jeter les vêtements qui ont été touchés, tout ce qui a été touché par cette eau-là. Si on ne peut pas jeter, par exemple, les vêtements, on les jette, mais si on ne peut pas jeter les meubles, il faut tout désinfecter avant d'utiliser parce que l'eau rentre avec tout ce que vous savez, ce qu'il y a sous l'eau, tous les égouts. Oh, c'est vraiment pas agréable. Rien que d'y penser, ça fait peur, quoi, de tout ce qu'on va retrouver dans les maisons. Donc, oui, il faut faire attention aux problèmes d'épidémie. Et heureusement, donc, ils sont là, ils sont préparés pour prendre soin de tout le monde en ce qui concerne la santé. Voilà.
Tatiana Basimba, on va finir avec votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont autour de vous, qui écoutent et qui peuvent faire face à ce genre de situation?
Tout simplement, s'ils peuvent venir en aide, ça sera une très bonne chose. Parce que vu la situation qu'on a vécue, c'était pas facile. Donc, on a besoin de leur soutien, on a besoin de leur assistance. Donc, voilà, s'ils viennent soutenir en les mots.
Merci. Henri Désiré, on tire à la fin de cette émission. Comment faire? Quelle devrait être l'attitude à adopter en cas de catastrophe? Beaucoup plus ici aux États-Unis, les secours sont rapides, mais ce n'est pas souvent le cas en Afrique. Et il y a tout genre de catastrophes qui peuvent intervenir. Quelle est la meilleure attitude à adopter?
Bon, rappelez peut-être que la croissance démographique et le changement climatique, évidemment, entraînent une augmentation justement de ces problèmes. Il faut une stratégie de risque, de réduction des risques des catastrophes. Ça peut se faire au niveau continental, mais il faut qu'il y ait à ce niveau-là un consensus qui puisse à la fois englober des mesures de prévention, de préparation de réponse, afin que ça puisse évidemment limiter l'ampleur des catastrophes.
Voilà. Alors, merci beaucoup, Henri. Georges, un mot de la fin pour terminer.
Oui, il faut féliciter en tout cas les populations de Houston et les encourager à résister davantage. Ce n'est pas facile quand même.
Voilà, on est presque arrivé au terme de cette émission qui était produite par Georges Léonard Sagnot, mise en onde par Souleymane Tarawale. John Lyndon, je voulais présenter, rester en compagnie des programmes de VO Afrique. Juste derrière moi, retrouver Eric Manirakiza pour les informations. Merci.